Il pleut, et j'entends le clapotis du passé qui se remplit. Oh mon Dieu, que c'est joli, la pluie. Quand Pierre rentre, raille, tiens, il faut que je lui dise que le toit de la remise a fui. Il faut qu'il rentre du bois car il commence à faire froid ici.
Barbara, et c'est toujours Romune Ménage, Onde Femme, Radio Zone 93.8. Et je vous propose de lire un extrait du texte de Haïs Kaïs Jasser à propos de l'exclusion dont sont victimes, ont été victimes des jeunes filles. Cette fois-ci, nous parlons plus de la situation genevoise où il s'agissait d'une enseignante, donc une adulte dans le cadre de son activité professionnelle. Mais peut-être que ce que propose cette femme dans le cadre de ce débat peut nous intéresser, y compris pour le débat qui nous concerne donc à Genève, à savoir comment réagir en tant que féministe au costume islamiste. Donc Gaïs Jasser vous l'a dit tout à l'heure, à la fois elle est contre le voile, mais elle est contre l'exclusion des filles parce que c'est les empêcher d'approcher la formation, une formation qui est très importante pour elle et dont par ailleurs le monde islamiste cherche à les en priver. Alors elle donne comme sous-titre à un des chapitres de son texte, l'exclusion, une fuite en avant. Accepter, dit-elle, l'exclusion, c'est d'admettre qu'une culture est immuable et imperméable aux idées libératrices. C'est également conforter, aux dépens de la solidarité, le regard paternaliste qui nie l'autre dans ses plus profondes aspirations. L'ennemi, clairement ou virtuellement désigné, est aujourd'hui l'arabo-musulman, à propos duquel on élabore des discours de moins en moins nuancés. Un dossier du journal français L'Express, consacré au foulard et intitulé « Le complot » ou « Comment les islamistes nous infiltrent » est introduit par ces lignes. Je cite « Pas manipuler les jeunes filles qui portent le voile à l'école ? Et si ces bravades juvéniles n'étaient que les prémices d'une infiltration de la France, nouvelle terre d'islam pour les barbus ?» Ça, c'est L'Express 1994. Dans ce même dossier, l'anthropologue Emmanuel Taud invite les jeunes filles portant le voile à devenir françaises. Je cite « On interprète le refus du voile en France comme un signe d'intolérance, voire de xénophobie. Eh bien, c'est exactement le contraire, dit Emmanuel Taud. La tolérance des Anglais repose en fait sur une mentalité différentialiste, c'est-à-dire sur l'idée qu'il y a des races différentes et qu'il faut les séparer. Ils partent du principe que la communauté pakistanaise ne doit pas se dissoudre dans la leur. Un Anglais ne tient pas à ce que son fils épouse une Pakistanaise. À l'opposé, l'attitude française part d'un présupposé universaliste. Si les gens ont un comportement semblable au nôtre, eh bien, ils sont les bienvenus. Toujours, c'est Monsieur Emmanuel Todd, 1994. Le présupposé d'Emmanuel Todd n'est pas si universaliste que ça, comme il le prétend, dit Gaïs Jasser, puisqu'il invite les jeunes filles portant le foulard à devenir françaises et non simplement des femmes libres. Prétendre que l'intégrisme et l'obscurantisme sont inhérents à l'islam, comme le soutient Jean-Claude Barrot, n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Que certains intellectuels occidentaux ont heureusement flairé le danger. Par exemple, je donne une citation. « Il n'y a aucun sens, ni intellectuel, ni éthique, à rassembler dans une fable unique du fanatisme islamique ce qui se passe aujourd'hui dans le monde arabo-musulman. Contre les médias qui ne cessent volontairement ou non de pratiquer tous les amalgames, contre les intellectuels et les politiciens qui se livrent à des opérations douteuses pour dire à leur clientèle occidentale ce qu'elle a envie d'entendre, le seul devoir, et d'ailleurs la seule arme efficace si l'on veut parler ce langage, est l'inlassable effort pour comprendre la logique de ce qui se passe, la raison de la déraison religieuse. » C'est M. Schlegel en 1987 qui disait cela. Dans le monde diplomatique, Paul Balta exprime la même inquiétude. Mais le dialogue euro-arabe, lancé à l'époque, finit par achopper sur les préoccupations trop économiques de la communauté européenne et trop politiques des Arabes engagés dans le conflit avec Israël. Les États-Unis, qui sont hostiles, achèveront de leur torpiller. Je vous rappelle que tout ce que je vous lis sont des citations tirées soit du monde diplomatique, soit d'un dossier paru dans l'Express, que cite quant à elle Gaïs Jasser pour montrer à quel point l'Occident est devenu intolérant, montant en épingle un ennemi clairement ou virtuellement désigné qui est l'arabo-musulman. Alors à propos du voile, Gaïs Jasser cite Gilles Kepel qui souligne avec pessimisme l'impasse instaurée entre la France et sa communauté arabo-musulmane. Avec l'affaire du voile, mais surtout la guerre du Golfe, le mouvement antiraciste des années 80 se divise profondément et perd une bonne part de son attrait. Parmi les potes et les beurs d'hier, parmi les sœurs et les frères cadets, un certain nombre vont désormais chercher dans le communautarisme islamique un moyen de négocier leur place dans la France de demain. Ce sont des propos donc de M. Gilles Kepel en 1994. La voix des intellectuels arabes alarmés par l'incommunicabilité entre la France et le monde arabe se laisse à peine entendre, est censurée, désabusée et craignant les représailles, ils finissent souvent, hélas, par abdiquer, dit Gaïs Jasser. Elle cite une citation dans ce sens-là, « On ne peut que constater et regretter une carence préjudiciable qui dure pratiquement depuis l'avènement des indépendances, quand dans l'euphorie de victoires mal gérées, beaucoup d'intellectuels de valeur sont allés grossir les rangs de ce qui est vite devenu une nomenclatura bureaucratique. » Alors, j'ai envie de vous citer encore, parce que, quant à moi, je trouve que certaines de ces citations, il est difficile de les suivre lorsque on n'a pas directement l'ensemble des textes sous les yeux. Mais, par exemple, je vous propose les propos de Souad Benani, qui est présidente de l'association des Nanabeurs, qui sera là lors du débat proposé par le collectif 14 juin ce samedi. Et qui, évoquant ce problème de manque de dialogue, dit la chose suivante. Au-delà de l'échec du dialogue, il faut donc engager le bras de fer avec les intégristes. Légitimer le port du voile, c'est mettre sous pression toutes celles qui se battent pour leur émancipation et leur liberté. Au nom de quoi un père, un grand frère, une mère, n'obligerait-il pas demain leur fille ou leur sœur à se rendre à l'école voilée? Au nom de quoi toutes ces jeunes filles ne se voileraient-elles pas sous la contrainte du milieu ou du groupe auquel elles appartiennent? Alors, de nombreuses positions peuvent être encore discutées. Chacune d'entre nous et d'entre les femmes auront plein de propositions à faire dans ce débat. Le collectif 14 juin le disait, c'est un débat qui suscite souvent des réactions très personnelles et très... qui touche à nos réactions diverses, et ce sera donc un débat qui promet d'être pas très facile, mais effectivement les femmes doivent s'engager à arriver vers une solution qui permette peut-être d'avoir une position claire en tant que féministe et que femme luttant aux côtés d'autres femmes pour un monde qui respecte leur volonté, leur désir de participation à une société libre et démocratique. Alors si jamais ces textes vous intéressent, si jamais vous avez envie de savoir où et quand se réunissent les femmes qui discuteront de ce sujet, vous pouvez toujours nous appeler au 450 40 51 41. Je répète, 450 40 51 41 059 si vous appelez depuis la Suisse voisine.
Donne-moi la main, le ciel d'Nantes rend mon cœur chagrin. Un matin comme celui-là, il y a juste un an déjà, la ville avait ce teint blafard lorsque je sortis de la gare. Nantes m'était alors inconnue, je n'y étais jamais venue. Il avait fallu ce message pour que je fasse le voyage. Madame, soyez au rendez-vous, 25 rue de la Grange au Loup. Faites vite, il y a peu d'espoir, il a demandé à vous voir. À l'heure de sa dernière heure, après bien des années d'errance, il me revenait en plein cœur, son cri déchirait le silence. Depuis qu'il s'en était allé, longtemps je l'avais espéré, ce vagabond se disparut. Voilà qu'il m'était revenu, 25 rue de la Grange au Loup. Je m'en souviens du rendez-vous et j'ai gravé dans ma mémoire cette chambre au fond d'un couloir. Assis près d'une cheminée, j'ai vu quatre hommes se lever. La lumière était froide et blanche, ils portaient l'habit du dimanche. Je n'ai pas posé de questions à ces étranges compagnons. J'ai rien dit, mais à leur regard, j'ai compris qu'il était trop tard. Pourtant, j'étais au rendez-vous, 25 rue de la Grange au Loup. Mais il ne m'a jamais revu, il avait déjà disparu. Tu la connais l'histoire, il était revenu un soir, et ce fut son dernier voyage, et ce fut son dernier rivage. Il voulait avant de mourir se réchauffer à mon sourire, mais il mourut à la nuit même, sans un adieu, sans un je t'aime. Qui longe la mer, couché dans le jardin de pierre. Je veux que tranquille il repose, je l'ai couché dessous les roses. Mon père, il pleut sur Nantes. Je me souviens, le ciel de Nantes rend mon cœur chagrin.
La main de Dieu, est-ce la main de diable qui a tissé le ciel de ce beau matin-là, lui plantant dans le cœur un morceau de soleil qui se brise sur l'eau en mille éclats vermeils? Est-ce la main de Dieu, est-ce la main de diable qui a mis sur la mer cet étrange voilier qui, pareil au serpent, semble se déplier noir et blanc sur l'eau bleue que le vent fait danser? Est-ce Dieu, est-ce diable ou les deux à la fois qui un jour s'unissent en fait ce matin-là? Est-ce l'un, est-ce l'autre? Vraiment, je ne sais pas. Mais pourtant de beauté, merci et chapeau bas. Est-ce la main de Dieu, est-ce la main de diable qui a mis cette rose au jardin que voilà? Pour quel ardent amour, pour quelle noble dame, la rose de velours au jardin que voilà? Et ses prunes éclatées, et tous ses lilas blancs, et ses groseilles rouges, et ses rires d'enfant, et Christine si belle sous ses jupons blancs, avec au beau milieu l'éclat de ses 20 ans. Est-ce Dieu, est-ce diable, ou les deux à la fois, qui un jour s'unissant fait ce printemps-là? Est-ce l'un, est-ce l'autre vraiment? Je ne sais pas, mais pour tant de beauté, merci et chapeau bas. Le voilier qui s'enfuit, la rose que voilà, et ses fleurs et ses fruits, et nos larmes de joie, qui a pu nous offrir toutes ces beautés-là? Cueillons-les sans rien dire, vaste, c'est pour toi et moi. Est-ce la main de Dieu et celle du malin qui un jour s'unissant croisent nos chemins? Est-ce l'un, est-ce l'autre vraiment? Je ne sais pas, mais pour cet amour-là, merci et chapeau bas. Mais pour toi et pour moi, merci et chapeau bas. Paris 15 août, Paris 15 août, nous aurions pu l'avoir tout à nous, Paris désert en ce mois d'août, mais tu es parti en Espagne. Je le sais bien, tu n'y peux rien, tes enfants ont besoin de vacances, et chaque mois d'août ça recommence. Tu pars avec eux en Espagne. Je t'imagine et je devine que pour moi mon amour tu t'inquiètes. Je sais bien que parfois tu t'embêtes avec ta famille en Espagne. Il n'y a pas, que ceux qui s'aiment et qui s'émerveillent, que ceux qui rêvent d'aller au soleil, qui s'en vont ensemble en Espagne. Et tout cela qui comme toi, chérie, ont des amours clandestines, ceux qui au départ font grise mine, attendent leur retour d'Espagne. En attendant, en attendant, soyez heureux près de vos enfants et n'ayez pour moi aucun tourment. Demain, je pars seul en Bretagne. La fille, pour son plaisir, choisit le matelot, l'eau voulut des navires pour voguer à son eau. L'homme choisit la guerre pour jouer aux soldats, et partit pour la faire sur l'air de ça ira. Bref, chacun possédait ce qu'il avait souhaité. Moi, je voulais un homme, ni trop laid, ni trop beau, qui promènerait l'amour sur les coins de ma peau. Un homme qui au petit matin me prendrait par la main pour m'emmener croquer un rayon de soleil. Moi je voulais un homme, à chacun sa merveille. Et la vie en passant un jour me l'amena. Puis la fille prit des coups par son beau matelot. La guerre en plein mois d'août nous faucha le soldat. Le navire qui passait juste à ce moment-là, le navire qui passait prit l'eau et puis coula. Bref, on ne sait pourquoi, mais tout se renversa. Moi, je prie en plein cœur.
Dans Remue Ménage, vous écoutez Barbara pour ces minutes qui nous restent de la fin de notre émission, puisqu'aujourd'hui c'est terminé. Je vous le rappelle, si vous souhaitez avoir la source des textes dont je vous ai lu certains extraits, comme contribution au débat sur l'intégrisme, le port du voile ou du foulard islamique, du costume islamique, n'hésitez pas à nous appeler au 450 40 51 41, je répète 450 40 51 41 059, si vous appelez depuis la Genève voisine. La semaine prochaine, eh bien, tout autre sujet, nous discuterons avec des femmes passionnées de montagne. En effet, le GAG, c'est-à-dire la scission du club alpin suisse genevois qui, il y a 20 ans, acte secret pour pouvoir intégrer des femmes, puisque le club alpin suisse n'acceptait pas les femmes. Eh bien, ce club, le GAG, fête ses 20 ans et des femmes viendront nous raconter leur passion, leur histoire face à cette histoire de discrimination homme-femme, mais surtout nous raconter leur passion de la montagne. À la semaine prochaine. C'est la fin de Remue Ménage sur Ondes Femmes, Radio Zone 93.8. Dans quelques instants, les informels et 19-20h, les coups de cœur de Marjolaine.
Le jour où tu viendras, le jour où tu viendras, le jour où tu viendras, ne prends pas tes bagages, que m'importe après tout ce qu'il y aurait dedans. Je te reconnaîtrai à lire ton visage. Il y a tant et tant de temps que je t'attends, tu me tendras les mains. Je n'aurai qu'à les prendre et consoler les voix qui pleurent dans ta voix. Je t'apprivoiserai les lumières éteintes, tu n'auras rien à dire. Je reconnaîtrai.
Ce ne sera rien, rien que des mots, des mots. Aux cartes, ça n'empêchera pas de dormir sur l'autoroute, ça n'empêchera pas de parler d'argent, ce sera tout à fait comme à la radio.
Bonjour, Radio Pleine Lune 93.8 MHz, Ondes Femmes, Radio Zone. Le soleil brille toujours, mais dans vos oreilles, c'est la lune, comme tous les mercredis, à partir de 18h30, dans quelques instants. Les informels, les nouvelles de la pleine lune, et puis les coups de cœur de Marjolaine. Mais tout de suite, j'aimerais commencer par vous donner quelques rendez-vous. Une émission de radio pour commencer. Vous voyez, nous ne sommes pas sectaires, nous parlons aussi d'autres émissions, d'autres radios qui nous plaisent, qui nous font chaud au cœur. Et dimanche 5 octobre, sur Espace 2, à 14h30, vous pourrez écouter Les Voix d'une insurrection. C'est le récit de la marche des rebelles zapatistes qui, le 12 septembre, sont partis, sont arrivés à Mexico. Ils ont marché depuis le Chiapas. Plus d'un millier ont fait ces 1200 kilomètres après un périple très long, en bus, en train, à pied. Le voyage commencé 4 jours plus tôt dans la jungle du Lacandon. C'est dans cette région située sur les hauteurs du Chiapas, au sud du Mexique, qu'est née la révolte des Indiens, héritiers des puissantes cultures mayas et aztèques. Dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier 1994, vous vous rappelez, cette armée zapatiste de libération est descendue des montagnes, a déclaré la guerre à l'État mexicain, la guerre aussi au traité de l'ALENA, c'est-à-dire au traité de libre commerce qui affame de plus en plus les paysans. En 10 points, les rebelles réclament la terre pour ceux qui la cultivent, l'accès à l'éducation, à la santé, à la démocratie, la justice, le respect des populations et des cultures indiennes et l'autonomie des femmes. Pour comprendre cette insurrection, le mécanisme qui la gouverne, deux personnes, Miguel Lacriso et Christophe Matei, sont partis à la rencontre de ces guerriers au cœur de cette province du Chiapas et ont marché avec eux et sont venus à Mexique où s'est réuni devant des centaines de milliers de personnes où les zapatistes sont arrivés donc le 12 septembre. Du simple combattant jusqu'au sous-commandant Marcos, les deux reporters de la radio suisse romande ont remonté le mouvement zapatiste pour tendre l'oreille à l'écoute des voix d'une insurrection que vous pourrez vous-même écouter dans l'émission Toile de son. C'est sur Espace 2 le dimanche 5 octobre à 14h30. Une fête, c'est le quartier des grottes, ou les quartiers des grottes, puisque c'est des quartiers faits de boue qui souvent se séparent, semblent opposés, mais qui se réunissent pour faire la fête. le samedi 4 octobre, dès 14h30. C'est l'association pour l'animation des quartiers des Grottes, des Cropettes et de Montbrillant qui vous appelle avec un programme qui commence à 15h30 à la Patauzoire pour les enfants. Des cracheurs de feu, des contes, des expositions, des animations, de la musique africaine, du cabaret, des chansons et une soirée dansante avec à manger, bien sûr. Toute une série de maisons, d'associations participent à cette fête. L'assurance chômage dans tous ses états, c'est l'université ouvrière qui vous parle, qui veut vous en parler. Comment s'est transformée la loi fédérale sur l'assurance chômage? Il faut s'informer sur les mesures qui sont entrées en application, sur les nouvelles lois cantonales. Tout ce cours sera donné le 10 novembre à l'université ouvrière de Genève, mais il faut s'inscrire. Il y a un prix également, 80 francs. Pour toute information, vous pouvez vous adresser directement à l'UOG au téléphone 022 733 50 60. Je répète, 733 50 60. Et puis, bientôt, le soleil partira. Ce sera le moment de se plonger dans des livres, pourquoi pas. Et un très beau livre vient de paraître. C'est le livre de la Cubaine Zoé Valdés, La douleur du dollar. Zoé Valdés, que vous pourrez rencontrer au kiosque du boulevard dans le cadre de la Fureur de Livres. C'est le jeudi 9 octobre à 17h30. Elle sera là, à la librairie du boulevard, à la rue de Carouge, pour signer et discuter avec vous de son nouveau roman « La douleur du dollar » paru aux éditions Actes Sud. C'est l'histoire de la vie d'une femme qui pourrait être la mère de Zoé, c'est Cuca Martinez. Zoé Valdés fait à travers cette vie le portrait de son île, Cuba, tant aimée. Dans une allégorie pleine de sensualité, de musique, on parcourt la vie cubaine des années 50 à nos jours, avec son lot d'utopie, d'absurdité, d'exubérance, de violence, de désespoir, d'humour et de rêve. Il faut savoir que Zoé Valdés a quitté Cuba et vit aujourd'hui à Paris. Et puis, on pourra également, le mardi 7 à 17h30, toujours au tabac du boulevard, être convié à un savoureux spectacle de goût de mots par le théâtre Marathon. Les mots à la bouche, c'est une lecture théâtre sur les plaisirs de la table, avec Richard Gauteron, Yves Pingli et Sylvie Zand. Dans quelques instants, les informels, et puis Marjolaine vous ouvre son cœur.